Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sidoudia, bonjour. Dans cette édition, les derniers échos de la campagne présidentielle américaine entre le démocrate Joe Biden et le président sortant, le républicain Donald Trump, à 5 jours du scrutin du 3 novembre. Une page spéciale dans moins de 5 minutes avec Jean-Roger Bion et Dilly Dico. Les ravisseurs de l'Américain Philip Walton, enlevés dans la nuit de lundi à mardi à Massalata au Niger, près de la frontière avec le Nigeria, ont appelé par téléphone son père mercredi pour exiger, selon le préfet de la zone, une rançon contre sa libération. Selon les autorités, je cite, « toutes les dispositions sont prises en collaboration avec les services de sécurité américains et nigériens » en vue de retrouver l'intéressé. Au Mali, 2 djihadistes ont été condamnés à mort mercredi par la justice pour avoir commis les attentats du Radisson Blue et de la Terrasse qui ont ensanglanté Bamako en 2015, après 2 jours d'un procès placé sous haute sécurité. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, nous en dira plus. Au Sénégal, le président Macky Sall a dissous mercredi son gouvernement en place depuis 18 mois. Nous retrouverons notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay. Au Cameroun, le gouvernement a affirmé mercredi que son armée a tué dans la nuit du 26 octobre l'un des membres du commando ayant attaqué samedi un établissement scolaire du sud-ouest anglophone, tuant 7 élèves et en blessant 12 autres. Le gouvernement a également annoncé l'assassinat d'un responsable éducatif à Bamenda, dans le nord-ouest anglophone. La République démocratique du Congo et les États-Unis ont décidé mercredi de reprendre leur coopération militaire après une interruption remontant à 1990, c'est-à-dire au régime Mobutu. L'accord porte sur 4 piliers, la formation dans le domaine du génie militaire, de la logistique, la formation des personnels civils qui œuvrent, dans l'armée, l'accès à la langue anglaise, a expliqué l'ambassadeur américain Mike Hammer. À travers cet accord, les États-Unis appuient un plan intégral qui combat la multitude des groupes armés qui terrorisent les populations dans l'est de la RDC, de Bunia à Beni jusqu'au haut plateau de Nimemwe, a encore expliqué le diplomate américain. Malgré la signature de cet accord, il a précisé que l'armée congolaise doit rompre les liens que certains officiers ont tissés avec certains de ces groupes armés, recherchant des gains financiers personnels. Par ailleurs, la force des casques bleus, MONUSCO, présente dans le pays depuis 20 ans, pourrait être retirée sur plusieurs années et sous condition de la RDC, propose le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans un rapport remis cette semaine au Conseil de sécurité. Ce document, obtenu mercredi par l'AFP, détaille les modalités de ce désengagement sans toutefois prévoir d'échéance pour un retrait total. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a été transféré en Allemagne pour des contrôles médicaux, ont rapporté mercredi les médias officiels. Abdelmadjid Tebboune s'était mis à l'isolement samedi après avoir été en contact avec des personnes présentant des symptômes du Covid-19 sans qu'il soit précisé toutefois si lui-même était atteint. Il avait été alors admis dans une unité spécialisée d'un hôpital militaire algérien. En France, le président Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir un reconfinement général dès vendredi et jusqu'au moins le 1er décembre. Et l'Allemagne a durci ses mesures de protection contre la deuxième vague de la pandémie de coronavirus qui ne faiblit pas, avec plus de 500 000 contaminations dans le monde en une journée. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie Idrissa Sidoudia. Restez à l'écoute pour la suite de nos informations. La suite de nos informations, tout d'abord, la présidentielle américaine du 3 novembre. Vote du candidat démocrate Joe Biden dans son fief du Delaware, le républicain Donald Trump, le président sortant, en campagne dans l'Arizona, et les sondages qui se resserrent sont les faits marquants de la campagne présidentielle américaine à quelques jours du scrutin du 3 novembre. Le point avec Jean-Roger Bion.
Fidèle à lui-même et à l'opposé des déplacements de son rival, Joe Biden est resté toute la journée de mercredi dans son fief de Wilmington dans le Delaware. Après avoir reçu un briefing matinal d'experts en santé publique sur le COVID-19, l'ancien vice-président a profité de sa présence dans sa ville pour déposer, masquer son bulletin dans l'urne de façon anticipée comme des millions d'Américains. Joe Biden sera ce jeudi en Floride et dans le Michigan samedi pour son premier acte de campagne aux côtés de son ancien patron, l'ancien président Barack Obama. À 3 jours du scrutin, ils évoqueront les projets du démocrate pour rassembler les Américains. Traumatisé par la défaite surprise de Hillary Clinton en 2016, des démocrates s'inquiètent cependant de voir Joe Biden beaucoup plus sédentaire que Donald Trump. À 6 jours du scrutin, M. Trump a sillonné l'Arizona, un de ses États décisifs pour le résultat de l'élection du 3 novembre. Le président américain a tenu 2 grands meetings de campagne dans cet État de l'Ouest américain, qu'il a déjà visité 6 fois et où s'est également rendue hier la policière de Joe Biden, Kamala Harris. Depuis plusieurs jours, Donald Trump se montre ulcéré par l'attention trop grande donnée selon lui à la pandémie de coronavirus. Joe Biden parle beaucoup mais ne fait rien, a-t-il déclaré devant des journalistes à Las Vegas. Quelques heures plus tard, depuis Bullhead City, dans l'Arizona, il a moqué, comme il le fait régulièrement, ce qu'il estime être un port excessif du masque à des fins politiques. Si l'ancien vice-président de Barack Obama mène dans les sondages nationaux, l'écart s'est toutefois resserré dans certains États clés cruciaux pour la présidentielle. Donald Trump a ainsi pris l'avantage d'une très courte tête en Floride, un enjeu crucial car elle détient 29 voix au collège électoral sur les 270 nécessaires pour décrocher les clés de la Maison-Blanche. Comme Joe Biden et Donald Trump samedi, plus de 74 millions d'électeurs sur les plus de 230 millions d'électeurs américains ont déjà voté par anticipation, un record dans les annales des présidentielles aux États-Unis. Jean-Roger Billon, VOA Afrique, Washington.
Le monde a le regard tourné vers les États-Unis qui se préparent donc pour une élection présidentielle cruciale. En Afrique du Sud, les citoyens observent avec intérêt la situation, notamment à des journalistes chevronnés qui expliquent les particularités et évolutions de cette présidentielle historique aux États-Unis. Anita Powell, à Johannesburg, fait le tour de la question. Le récit est de Dili Diko.
Cela fait 12 ans que le journaliste sud-africain Sherwin Brice-Peet s'attelle à l'intéressante tâche d'expliquer de la mégapole new-yorkaise l'Amérique et la politique américaine aux téléspectateurs sud-africains. Relater les informations de l'année 2020 est cependant un nouveau défi. La pandémie et l'élection présidentielle ont fait que même pour des journalistes américains, il est devenu difficile de relayer l'information. Brice-Peet explique que la difficulté est universelle.
Le déficit de vérité que nous avons connu avec cette Maison-Blanche, par exemple au niveau de l'équipe médicale du président après son diagnostic du COVID-19, fait que vous n'obtenez pas nécessairement le factuel de cette Maison-Blanche. Nous devons donc toujours, en quelque sorte, regarder les choses à travers un prisme. Qu'a dit le président? Est-ce réellement vrai? Cela complique la vie des journalistes ici.
Brice-Peet consacre sa couverture électorale sur la course à la Maison-Blanche et sur les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Il pense que son public préfère le candidat démocrate Joe Biden dans cette élection, en grande partie à cause du lien de Biden avec l'ancien président Barack Obama et du choix de Kamala Harris comme colistière. Le journaliste sud-africain pense également que les commentaires péjoratifs sur l'Afrique attribués au président Donald Trump l'ont rendu impopulaire sur le continent. À Johannesburg, Brooke Spector, diplomate américain à la retraite devenu écrivain, tente également d'expliquer la politique américaine au public sud-africain dans le journal Daily Maverick. Cette élection, dit-il, l'a amené à explorer des thèmes inhabituels dans sa chronique.
Il y a environ un mois, j'ai écrit une chronique qui exhortait les groupes de surveillance internationaux à observer les élections américaines afin qu'elles restent honnêtes, libres et équitables.
Il ne s'agit pas là d'une opinion isolée, car l'Union africaine a suggéré une mission d'observation électorale aux États-Unis. Mais cette idée ne semble pas s'être concrétisée. Cependant, de petites équipes d'États africains prévoient leur propre mission d'observation. Selon l'analyste Lise Lou Vaudran, la présidentielle américaine pourrait influencer le comportement futur des nations africaines.
Au-delà d'un changement de mentalité, il y a un changement de paradigme, dans le sens où les pays et les gouvernements africains se sentent toujours, vous savez, désavantagés, surtout de la gouvernance à la réponse au nouveau coronavirus. Ce que nous avons constaté ces 6 derniers mois, c'est qu'en fait, même les pays développés se sont retrouvés en difficulté. Leurs modèles de gouvernance sont également menacés.
Bryce Pease explique que c'est un moment important pour couvrir l'actualité américaine.
This is a strange moment for the United States, and I think we need to recognize that.
C'est un moment inhabituel pour les États-Unis, et je pense que nous devons reconnaître cela. Le fait que le processus électoral de ce pays modèle soit remis en question fait réfléchir beaucoup de gens. Donc, je ne sais pas comment l'Amérique sera transformée à l'issue de ces élections. La question est de savoir quel genre de leadership il y aura après le 3 novembre. Je pense que ce sera déterminant pour la suite.
How America comes out of this, the question is, what kind of leadership will you have post November 3rd? I think that will be determinative of where we go here.
Quelle que soit la direction que prendront les États-Unis à la suite des élections, les observateurs africains, tout comme Sherwin Brasby, continueront à regarder l'Amérique avec intérêt.
Dans le reste de l'actualité, au Mali, l'assise antiterroriste a condamné Fawaz Oud Ahmed, alias Ibrahim, et Sadou Chaka à la peine de mort et à 10 millions de francs d'amende. C'était lors du deuxième jour de procès des auteurs présumés des attentats de 2015 à Bamako, qui ont fait 30 morts au bar-restaurant, la terrasse et à l'hôtel Radisson Blu. Précision de notre correspondant Kassim Traoré.
Cette seconde journée s'est ouverte avec les auditions des deux prévenus. Le principal suspect, le Mauritanien Fawaz Oud Ahmed alias Ibrahim Diss, qui a détaillé pendant près de 2 heures les opérations qu'il a menées. Pendant son explication, il n'a affiché aucun remords. « Je suis un Moudjahidine djihadiste », a-t-il dit à la cour, avant de confirmer être membre de Al-Mourabitoun, un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, qu'il était descendu de Gao avec une Kalachnikov et 6 chargeurs, un pistolet et 2 chargeurs. Après un repérage, dit-il, il se rend au restaurant puis vise les Occidentaux. À la question des magistrats sur les motifs de ses actes, il a répondu « Nous sommes en guerre contre la France et ses alliés. » Pour l'attentat de la terrasse, Mokhtar Belmokhtar lui aurait donné son feu vert pour venger le prophète paix et salut sur lui en réponse à la publication des caricatures de Charlie Hebdo. Au terme des auditions, la culpabilité a été retenue par la cour d'assises sur tous les chefs d'accusation pour Ibrahim Diss et Sadou Chaka. Le ministère public a demandé l'application de la peine de mort, une décision qui a été acceptée par la cour d'assises antiterroriste qui a condamné Fawaz Oud Ahmed alias Ibrahim Diss et Sadou Chaka à la peine de mort et a payé 10 millions de francs CFA comme amende chacun. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Sénégal, le président Macky Sall a dissous le gouvernement et mis fin aux fonctions de plusieurs hautes personnalités de la République en signant 4 décrets simultanément ce 28 octobre. Seydina Abagui.
C'est à travers un communiqué que la présidence de la République a annoncé la signature de 4 décrets par le président Macky Sall. Dans le premier, le chef de l'État a mis fin aux fonctions des ministres et secrétaires d'État, membres du gouvernement. Dans le deuxième, il a mis fin aux fonctions du président du Conseil économique, social et environnemental. Dans le troisième, il a mis fin aux fonctions du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Et dans le dernier, il a mis fin aux fonctions du ministre secrétaire général du gouvernement. Après avoir remercié ses anciens collaborateurs pour les services rendus à la République, le président Macky Macky Sall les a chargés, chacun en ce qui le concerne, de gérer les affaires en cours. Ces décrets et cette dissolution du gouvernement viennent mettre fin à plusieurs semaines de spéculations sur d'éventuels changements dans la structure du gouvernement et de certains services de l'État. Il est notamment question d'un possible retour du poste de Premier ministre, un poste qui a été supprimé lors du dernier remaniement. Pour le moment, les Sénégalais attendent avec impatience l'ossature du nouveau gouvernement de la République du Sénégal. À Dakar, Seydina Bagui pour VOA Afrique.
Les États-Unis ont refusé mercredi de soutenir la nomination à la tête de l'OMC de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, lui bloquant la voie pour devenir la première femme et la première africaine à diriger l'Organisation mondiale du commerce. Mais rien n'est joué pour l'instant, nous dit Abdourahmane Dia.
Cette décision plonge l'Organisation mondiale du commerce dans l'incertitude. L'institution, qui a pour habitude de prendre les décisions par consensus, est ainsi privée de chef depuis le départ fin août du Brésilien Roberto Azevedo. Lancé début septembre, le processus de sélection de son successeur devait s'achever avant le 7 novembre. L'opposition des États-Unis à la candidate nigériane a grippé le processus. Lors d'une réunion à Genève, les États-Unis ont déclaré qu'ils soutenaient la Sud-Coréenne Yeo Myung-hee en raison de ses 25 ans d'expérience dans le domaine du commerce. Le comité qui supervise le processus de sélection avait conclu que Mme Ngozi est la candidate qui a le plus de chances de faire un consensus. Selon ce comité, la Nigériane avait de loin le plus de soutien et qu'elle était largement soutenue dans toutes les régions. Les membres de l'OMC vont se réunir à nouveau le 9 septembre à Genève après l'élection américaine du 3 novembre pour décider de la suite. En cas de désaccord, un vote est possible, mais l'OMC n'a jamais eu recours à un vote pour choisir son nouveau patron.
Les sports à présent, Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a annoncé qu'il va briguer un deuxième mandat à la tête de l'instance africaine du football. La CAF a beaucoup changé depuis 4 ans. Je suis fier du travail accompli par mon équipe. Après réflexion et consultation, j'ai décidé de me représenter, a-t-il annoncé sur Twitter. La CAF doit tenir le 12 mars 2021 son Assemblée générale élective chargée de désigner un président. À l'été 2019, le président Ahmad a demandé l'aide de la FIFA pour superviser son organisation fragilisée par plusieurs polémiques et des problèmes de gouvernance. La numéro 2 de la FIFA, la Sénégalaise Fatma Samoura, a effectué un mandat de 6 mois, mais celui-ci, qui visait à accélérer le processus de réforme au sein de l'instance, n'a pas été renouvelé début février 2020. En juin 2019, à Paris, Ahmad Ahmad a été interpellé et placé en garde à vue pour des soupçons de corruption. Il est ressorti libre. Football toujours, et nous prenons la direction de l'Europe pour parler de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone de Lionel Messi a dominé la Juventus Turin, privé de Cristiano Ronaldo en quarantaine 2-0 lors de la deuxième journée. Dans les autres rencontres, le FC Séville a battu Rennes 1-0, 2-0 pour le PSG devant Başakşehir, 4-0 pour Chelsea face à Krasnodar. Manchester United a éclaboussé le RB Leipzig 5-0, entre autres résultats. Le tableau des éliminatoires de l'Afrobasket 2021 affiche désormais complet. Le Cap-Vert et Madagascar ont arraché les deux derniers tickets à l'issue des derniers tournois de pré-qualification. À Yaoundé, les Cap-Verdiens ont fait un parcours sans faute, disposant du Tchad 90-73, puis du Soudan du Sud 91-85. Le Cap-Vert rejoint ainsi le groupe E, déjà composé du Maroc, de l'Égypte et de l'Ouganda. Pour sa part, Madagascar a pris son ticket à Harare devant la Zambie et le Zimbabwe. Après 2 victoires contre ces pays, les Malgaches intègrent le groupe A en compagnie de la Tunisie, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Le tournoi de qualification pour l'Afrobasket 2021 commence le mois prochain à Kigali et au Caire. Les 3 meilleurs de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale prévue l'an prochain à Kigali, au Rwanda.
Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Segulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, le Haut Conseil islamique du Mali a demandé au président français Emmanuel Macron de présenter ses excuses à la communauté musulmane du monde l'interdiction immédiate de toute publication des caricatures du prophète Mohammed en France et l'arrêt immédiat des fermetures de lieux de culte musulmans et de la dissolution des structures musulmanes dans ce pays, ainsi que les intimidations à l'endroit de leurs dirigeants. C'est ce qui ressort du grand rassemblement organisé mercredi à la grande mosquée de Bamako contre les caricatures du prophète Mohammed. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
La grande mosquée de Bamako était pleine à craquer. Des récitals coraniques, louanges au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, oui à la liberté d'expression, mais non aux caricatures. C'est ce qu'on pouvait lire sur certaines pancartes.
Les frères Kouachi, ce qu'ils ont fait, le monde entier a vu, ils sont allés venger le prophète. Ces jours-là, ils ont dit, on est venu venger notre prophète. C'est ce qu'ils ont dit, les deux Kouachi. Donc, il ne faut pas répéter les choses. Macron, il cherche à mettre l'huile sur le feu. Il fasse attention. Les musulmans du monde, on est vigilants. Ce n'est plus comme avant. La France n'a pas intérêt. C'est la France qui est bourrée de musulmans. Quand tu vas marcher, tu n'es plus musulman.
Bien que n'étant plus le président du Haut Conseil islamique du Mali, l'influent imam Mahmoud Diko a pris la parole pendant ce meeting.
C'est une déclaration qui a mis le monde musulman en ébullition. Je pense vraiment que Emmanuel est un grand responsable de ce monde contemporain. Il n'avait pas besoin d'une telle déclaration. Le monde est dans une situation où des hommes comme lui doivent avoir savoir raison garder parce que le monde a besoin de la paix. Nous sommes dans l'impasse, nous voulons vraiment le vivre ensemble. Nous avons besoin aujourd'hui de faire preuve de beaucoup de retenue et de sagesse pour que le monde aille dans une autre voie qui n'est pas la voie de la violence.
Comme lui, d'autres leaders religieux se sont succédés au pupitre pour fustiger le comportement de la France et les propos du président français Emmanuel Macron.
Le Haut Conseil islamique du Mali condamne avec la dernière rigueur les menaces proférées ces derniers temps par les groupes radicaux contre la célébration du Maulou dans certaines localités du pays et invite les plus hautes autorités du pays à prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser les lieux de rassemblement pour la célébration du Maulou.
Après ce grand rassemblement qui a réuni plus de 5000 personnes à la grande mosquée de Bamako, les manifestants se sont retirés sans causer de dégâts. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Pour rappel, après la tragique décapitation près de Paris du professeur d'histoire Samuel Paty pour avoir montré des caricatures du prophète Mohammed à ses élèves, le président Macron avait souligné lors de la cérémonie d'hommage à la victime que la France ne renoncerait pas à ses desseins, suscitant une vague de colère dans le monde arabo-musulman.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
En Guinée, un calme précaire règne malgré une mission internationale qui a bouclé son séjour mardi et qui a appelé les Guinéens à la retenue et à préserver la paix. Le président sortant, Alpha Condé, déclaré vainqueur par la CENI avec 59% des voix, fait face à une contestation de son principal opposant, Sélou Dalein Diallo, qui continue à revendiquer la victoire. Le pays retient son souffle en espérant une issue heureuse de la crise, nous dit notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Après plusieurs jours de violence, les tensions ne sont pas complètement retombées. Dans la capitale, on constate une reprise progressive des activités. Les Guinéens restent nombreux, marqués par l'ampleur des violences, à l'image de Aminata.
Par endroits, il y avait des bagarres, il y avait des violences. Et du coup, tu avais peur de ne pas être attaqué par n'importe quelle personne.
Arrivé dimanche à Conakry, la mission conjointe CDAO, Union africaine et Nations unies a invité les candidats à saisir la Cour constitutionnelle pour le règlement des contentieux électoraux. Dans la capitale, la crise post-électorale ne laisse personne indifférent.
Aujourd'hui, ce qu'il faut pour sortir de cette situation qui est très très critique d'ailleurs, c'est qu'il faut s'accorder le temps de parole et que chacun puisse mettre sur la table sa préoccupation et qu'on essaie de reconsidérer les positions pour en tout cas se parler en tant que Guinéen.
Premièrement, il faut une prise de conscience collective au niveau de tous les citoyens guinéens.
Au terme d'une mission de 72 heures à Conakry, les émissaires de la CDAO, de l'Union africaine et des Nations unies ont dit avoir pris note de l'annonce des résultats provisoires par la CENI. La délégation demande aux autorités guinéennes de diligenter des enquêtes pour faire la lumière sur les violences post-électorales. Jean-Claude Cassibrou, président de la commission d'observation électorale de la CEDEAO à Conakry.
La mission conjointe a aussi demandé aux autorités guinéennes de diligenter les enquêtes pour faire la lumière sur les violences afin de traduire les auteurs en justice. Elle demande aux autorités de faire en sorte que les forces de défense et de sécurité agissent avec retenue et professionnalisme dans la gestion des manifestations. La mission exhorte les autorités guinéennes à lever ce dispositif dans la perspective d'un dialogue inclusif.
Ce mercredi, les forces de sécurité qui occupaient les alentours du domicile de l'opposant Sélou d'Alain Diallo ont finalement quitté les lieux. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Cameroun, le président Paul Biya a décrété le samedi 31 octobre journée de deuil national à la mémoire des victimes de l'attaque qui a tué 7 enfants de 9 à 12 ans dans leur classe de Kumba. Selon Human Rights Watch, les écoles sont une arme de guerre depuis le début du conflit qui agite les deux régions anglophones du pays. Eric Manera-Kidza a joint la chercheuse de l'ONG pour l'Afrique centrale, Ilaria Allegrossi.
Déjà, la crise dans les régions anglophones a été une vraie catastrophe pour toute une génération d'enfants. Elle a eu un impact disproportionné sur les enfants. Elle a été utilisée par les séparatistes comme une arme, comme un moyen pour obtenir des gains politiques. Depuis le début de la crise, des leaders des groupes séparatistes ont imposé aux familles des régions anglophones de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Ils ont mis en place un boycott des écoles qui a été une manière de faire pression sur les gouvernements, une forme de désobéissance et des défis au pouvoir central. Mais de l'autre côté, il faut dire aussi que les autorités qui ont privilégié une réponse militaire à la crise n'ont pas maîtrisé les forces de sécurité qui se sont rendues coupables d'exactions, y compris contre les enfants. Je rappelle qu'en février, les soldats camerounais ont massacré 13 enfants dans un village de la région du Nord-Ouest dans le cadre d'une opération de représailles qui visait à punir la population accusée d'abriter des combattants séparatistes. Dans ce contexte de violence, cela a privé des centaines, des milliers d'enfants de leur droit fondamental à l'école. Pour ce qui concerne les responsabilités par rapport à l'attaque des Kumba, je pense que seulement une enquête indépendante sera en mesure de le faire, de faire la lumière sur ce que j'estime être une des pires attaques, des attaques les plus abominables perpétrées dans les cadres de la crise anglophone.
Est-ce qu'y a-t-il un moyen pour garantir la sécurité dans les écoles d'une manière effective?
Bon, les enfants ont le droit d'aller à l'école dans un environnement qui est sûr, même en période de violence. Mais au Cameroun, les attaques contre les bâtiments scolaires, contre les élèves, contre les enseignants ont compromis la sécurité et l'éducation des enfants. Je pense que les autorités doivent davantage prendre des mesures pour garantir la sécurité des écoles sans pourtant en compromettre le caractère neutre. C'est-à-dire que déployer des militaires, des gendarmes, des policiers en dehors des salles de classe, ce n'est pas la solution, surtout parce que ça serait impossible de le faire pour toutes les écoles des régions anglophones. Donc il faut plutôt renforcer, je pense, les dispositifs sécuritaires dans les villes et travailler en collaboration avec la population. Et pour s'y faire, les forces de sécurité ont besoin du support, de la confiance de la population, une confiance qui malheureusement a été fragilisée à cause des multiples exactions commises par les militaires sur le terrain contre les civils anglophones et à cause aussi de l'impunité pour de telles exactions.
Est-ce que c'est un acte qui va dissuader les parents d'envoyer leurs enfants à l'école? Qui en sort gagnant dans tout ça?
Personne ne tire vraiment profit de cela parce que sans l'éducation, les enfants ne pourront pas atteindre leur plein potentiel, ne pourront pas contribuer à l'avenir de leur famille, de leur communauté, de leur nation, de leur économie.
Ilaria Allegrossi, chercheuse de l'ONG Human Rights Watch pour l'Afrique centrale. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel-Joseph à la mise en onde. Bonne journée, à l'écoute.